Passons à présent au 21 février 1786. J'étais alors chez mon père, qui nous avait réunis ma sœur et moi après l'absence de ma mère. Il faut dire ici que cette mère, trop dure pour moi, voyant la conduite désordonnée de Moresquin avec mon père, avait redouté de justes reproches, et qu'elle avait été dans sa province, sous prétexte des affaires de la succession de sa mère, mais réellement dans l'intention de s'y fixer ce qu'elle fit. Ça avait été le 27 novembre qu'elle était partie, et le même jour, mon père était venu me prendre. Le 21 février suivant, j'avais mal à la tête. J'allais prendre l'air à la pointe de l'île Saint-Louis. J'avais fait le tour de l'île et j'étais prêt à m'en revenir lorsque je sentis une main crochue s'appuyer sur mon épaule. C'était celle de Moresquin. Je fis un cri en le reconnaissant. « Tu ne m'échapperas pas, me dit-il tout bas, je te tiens, il y a assez longtemps que je jeûne. » Ce qui suit ne peut s'écrire. « Tu viendras chez moi à présent, après quoi je te renverrai à ton père. » J'avais entendu parler de son dessein de me contagier. Outre l'horreur que Moresquin m'inspirait naturellement, ce que je soupçonnais me donnait des forces contre lui. Je voulus m'enfuir. Il n'osa me battre à cause d'un groupe de femmes du commun qui l'auraient écharpé. Mais pour leur prouver son bon droit, il me fit arrêter par la garde. Je fus ignominieusement traîné devant le commissaire. Là, il rendit une plainte insensée, mais si folle, que le clerc du commissaire me conseilla d'en rendre une à mon tour, ce que je fis. On nous mit ensuite en référé devant le lieutenant civil. Je fis avertir mon père, qui vit l'affreux Moresquin dans l'étude. Il ne lui parla pas. Il se contenta de l'accabler de son mépris. On partit pour l'hôtel du lieutenant civil. Dès que le magistrat parut, le commissaire lui annonça une demande en séparation. Les magistrats ne peuvent montrer que de la douleur dans ces occasions. Moresquin prit ce mouvement du cœur honnête d'un juge respectable pour un pronostic en sa faveur. Il triomphait. Mais le commissaire, ayant rendu compte de ce qui venait de se passer, le lieutenant civil s'écria « Il l'a fait arrêter par la garde, mais la garde n'a pas ce droit-là, faire arrêter sa femme !» Ce discours n'intimida guère Moresquin, accoutumé à ne pas rougir. Il osa demander que je fusse réintégré chez lui. Mais le magistrat me remit entre les mains de mon père et nous nous en retournâmes seuls avec lui, ma sœur et moi. Moresquin était comme un furieux. On fit ensuite d'autres arrangements en présence des procureurs et je restai définitivement dans la maison paternelle. Mais qu'on ne pense pas que Moresquin pût se tenir tranquille. J'apprenais tous les jours des calomnies nouvelles et je les dissimulais. Le 5 mai arriva et je fis à cette époque une nouvelle connaissance qui présentera, je l'espère, de plus agréables détails que ceux que j'interromps. Nous allions quelquefois dîner au-delà du boulevard chez un inspecteur général d'artillerie ami de mon père. Le 5 mai, ce respectable officier nous chargea de prendre en passant deux de ses amis, le frère et la sœur, et de venir tous ensemble sous la conduite d'un autre officier, son frère aîné. Nous arrivâmes six à la fois dans une jolie maison environnée de jardins qui donnait sur la rue Saint-Maur. Ce fut là que je vis toutes les grâces de l'aimable félicité. Mon cœur s'éprit pour elle à jamais de l'amitié la plus vive et la plus tendre. Mon père et ma sœur l'aimèrent autant que je l'aimais et tout parut seconder mon attachement. Après de grands malheurs, le frère et la sœur achetaient de l'officier général une petite terre en Normandie où ils comptaient se retirer. Voici en abrégé l'histoire de Félicité. C'était la plus jeune de sept enfants. Un de ses frères, celui qui avait le plus de talent et de capacité, s'était avancé dans la direction des fermes et se voyant dans une position avantageuse, il avait fait élever sa jeune sœur, demeurée orpheline, de manière à tenir sa maison un jour. Félicité reçut donc une éducation soignée et surtout, elle acquit toutes les grâces de notre sexe. À 17 ans, elle était venue se mettre à la tête d'une maison nombreuse. Elle était jolie, faite autour, ses yeux étaient noirs et brillants, le son de sa voix, harmonieux et flatteur, allait à l'âme. Elle fut chérie, adorée de toutes les connaissances de son frère. Elle était l'âme de sa maison. 20 parties se présentèrent, mais Félicité n'était susceptible alors que d'un sentiment, celui de la reconnaissance. Elle était attachée à son frère, son bienfaiteur. Elle le rendit maître absolu de son sort et lui voua son existence. Elle passa son printemps d'une manière très agréable. Elle n'avait jusqu'à ce moment cueilli que des roses sans épines, mais une épreuve cruelle l'attendait. Son frère avait toujours rempli son devoir de directeur avec exactitude et intégrité. Il s'était fait par là des ennemis qui, étant ensuite devenus régisseurs, travaillèrent à le perdre. Il avait coutume d'envoyer le montant de sa caisse en effet sur Paris. Il en fit de même, ignorant qu'on attendait cette occasion pour le perdre. On lui renvoya ses effets, et avant qu'il pût se retourner, on vint le saisir et l'emprisonner dans le donjon du château fort de sa ville comme soustracteur des deniers royaux. Ce fut dans cette occasion que la jeune Félicité, seule, abandonnée à elle-même, délaissée par des amis froids qui croyaient son frère coupable, montra toute son activité, toute son affection pour son frère. Elle fut 24 heures à la porte de sa prison, demandant à ne faire que l'entrevoir et refusant toute nourriture. Il fallut le lui montrer. Elle s'élança comme un trait et se jeta dans ses bras où elle s'évanouit. Personne ne put l'en séparer, que lui-même, encore fût-ce, en la pressant de se rendre à Paris afin de travailler en sa faveur. Elle y vola. C'est ainsi qu'elle frappa hardiment à toutes les portes. On vit une jeune personne auparavant fêtée, d'une figure et d'une santé délicates, assiéger les hôtels des régisseurs et les bureaux des premiers commis, ne se rebuter de rien, souffrir et les cajoleries et les grossières attaques. Elle a dit depuis « J'étais déterminée à tout. Mon corps et mon âme étaient à mon frère, et si l'on avait exigé de moi ce qu'on demande des plus viles créatures, je crois que je l'aurais fait, pourvu que j'eusse l'assurance d'obtenir pour mon frère liberté et réparation. » On sent à quoi elle fut exposée. On a su par d'autres qu'il n'est pas d'humiliation où elle n'ait été réduite, de caprice qu'elle n'ait eu à satisfaire. Mais ce qui la peina le plus, ce furent les exigences d'un parvenu, alors supérieur de son frère, qu'il avait vu dans la ville fort au-dessus de lui. Cet homme vil humilia Félicité au dernier degré et trahit ensuite les intérêts de son frère. Indignée, elle reprit alors toute sa fierté et brava tout, se montra au-dessus du malheur et obtint plus par la fermeté que par ses faveurs. Elle revint, délivra son frère et quitta une ville, théâtre de sa gloire et de son infortune, mais non de sa honte. Je ne savais pas tout cela, mais Félicité avait entendu parler de mes malheurs sans me connaître. Elle ne savait pas, en dînant avec Mademoiselle Saxancourt, que ce fut moi qu'elle avait plainte. Mais au sortir de table, le vieil officier qui parlait beaucoup, ayant, suivant sa coutume, expliqué mon histoire à Félicité, comme il me détailla ensuite la sienne, cette charmante personne vint se jeter dans mes bras en me disant « Aimons-nous, ma chère Saxancourt, il est 1000 raisons pour cela. Tout le monde se détermine d'abord pour votre sœur, qui est douce et jolie. Moi seul, je me suis senti attiré vers vous avant de vous connaître. » « Oh, elle vous connaîtra, » dit le vieil officier. Et il profita de la première occasion pour m'apprendre ce que je viens de dire. Nous nous unîmes par les confidences. Félicité promit de me servir. Notre amitié commença pour ne finir jamais. Elle demeurait à Paris, tout près de Moresquin. Elle savait, par des voisines, une partie des horreurs qu'il m'avait faites, et son beau-frère, sa sœur ainsi que leur fille l'avaient instruite. Elle avait désiré de me connaître sans savoir quel était mon père. La raison du goût excessif qu'elle a pris pour moi a été qu'elle trouvait dans la même personne la femme qu'elle avait plainte davantage et la fille de l'homme qu'elle estimait le plus. Je ne cacherai pas ici que j'eus une autre satisfaction par le moyen de mon amie. Mon père, qu'il était si important pour moi de conserver, avait mal à la poitrine des violentes secousses et du chagrin que mon malheur lui avait causé. Je m'aperçus que son cœur s'ouvrait au plaisir de trouver Félicité jolie. Je recommandais cet homme, qui m'était si cher, à mon amie, et elle ne rebuta pas ses soupirs. Bientôt, elle sentit combien un homme de mérite sait être aimable, quoiqu'il ne soit plus jeune, et j'eus le plaisir de les voir éperdument amoureux l'un de l'autre. Ce fut un des plus heureux temps de ma vie. Mon amie devenait comme ma mère. J'étais sa confidente, j'étais celle de mon père, je leur disais à l'un et à l'autre ce qu'ils n'osaient se dire, et je les vis heureux. Ma sœur, cette jeune personne si aimable, que le monstre de Moresquin avait eu la barbarie de maltraiter chez lui, était alors sur le point d'être avantageusement établie. Tout me riait, et mes malheurs s'oubliaient. Mais Moresquin vivait. Un jour, le 18 mai, que nous avions à dîner mon ami et son frère, avec un jeune homme avocat général au Parlement de... Après un dîner délicieux entre 6 personnes qui se plaisaient et dont quelques-unes s'adoraient, on proposa une partie autour de l'île Saint-Louis. Ma sœur et moi, qui avions arrangé, nous nous dispensâmes d'en être et les 3 hommes sortirent avec Félicité, leur déesse, car ils l'aimaient tous 3 également, quoique par différents motifs. En arrivant sur l'île, mon père aperçut Moresquin avec son fils. Le monstre jouait avec l'enfant en affectant de l'appeler Saxancourt. Les 2 hommes n'y comprenaient rien encore. Mais Félicité devina le méchant à son air, quoiqu'elle ne l'eût jamais vu. Elle voulait revenir, mais elle continua par complaisance pour son frère. Moresquin allait tantôt derrière, tantôt devant eux. Ils s'arrêtaient lorsqu'ils s'arrêtaient. Ils marchaient dès qu'ils avançaient. À la fin, il fut remarqué par les 2 hommes qui l'impatienta furieusement. Mais Félicité les modéra. Il les suivit au retour jusqu'à la porte de mon père. Que signifiait cela? On l'ignore. Mais c'était le prologue d'une pièce terrible qu'il devait jouer le 25 mai suivant, jour de l'Ascension au jardin du roi. Je vais raconter cette scène tout de suite pour ne plus m'occuper que d'objets agréables, si ce n'est relativement à moi qui suis malheureuse à jamais, du moins pour mon père et ma sœur. Félicité dînait chez nous avec le jeune avocat général. Moresquin, qui épiait toutes nos démarches depuis notre nouvelle connaissance avec mademoiselle Félicité, vint se mettre en sentinelle dans notre rue et sa station fut au cabaret où il but à se griser pour se donner une plus grande effronterie. À 6 heures du soir, nous sortîmes, mon père, Félicité, le jeune avocat général, ma sœur et moi. Nous entrâmes dans le jardin par la nouvelle porte du côté de la rivière. Nous gagnâmes le labyrinthe par le petit monticule. Mon père allait devant avec Félicité. Le jeune homme était entre ma sœur et moi. Je ne sais pourquoi nous cessâmes de suivre M. Saxancourt pour monter dans la route du milieu. Ce fut en descendant pour nous rendre au labyrinthe que Moresquin m'aborda et me donna 2 soufflets. Le jeune homme ne s'en aperçut qu'à la poudre qui tombait de ma tête et lorsque Moresquin fuyait déjà. Et s'étant écrié « Quel est donc cet insolent ?» Moresquin répondit « C'est ma femme que je caresse !» et s'enfuit. Mon père s'était arrêté pour nous attendre, mais sans se douter de rien. Nous le joignîmes, et il vit à mon trouble, à ma pâleur, qu'il s'était passé quelque chose d'extraordinaire. Le jeune homme l'instruisit. M. Saxancourt dissimula sa colère. Nous montâmes au labyrinthe que l'on commençait à gâter pour y faire je ne sais quoi. Puis, nous descendîmes dans le parterre. Ce fut là que nous retrouvâmes Moresquin, que le jeune avocat général fit arrêter par la garde du jardin. Mon père, indigné, eut trop de vivacité. Il poussa Moresquin, qui lui marchait sur le pied. Aussitôt, ce misérable s'écria que M. Saxancourt le frappait. Le garde, une de ces âmes basses et viles, dont la figure annonçait la plus grande ressemblance avec Moresquin, dit comme lui. Mais le témoignage de tout le public, et entre autres d'une jolie personne, Mademoiselle Raguidon l'aînée, depuis mon amie, empêcha que ces deux misérables ne fussent crus. On entra au cabinet du dépôt. 1500 personnes étaient à la porte. Ce fut là que Moresquin, ivre, forcené, écumant, vomit contre mon père, devant le garde et devant M. Robet le poète, les injures les plus atroces, l'accusant de M-je, d'inceste, de prostitution de ma personne et surtout lui prêtant avec fureur de ses torts bêtes qui n'en sont pas. L'inspecteur du jardin, Croix de Saint-Louis, fut averti. M. Saxancourt étant le plaignant, il voulut parler. Mais Moresquin ne lui en donna pas le temps. Il se répandit en infamie, comme un volcan. L'inspecteur l'écouta quelques minutes, puis le fit taire et lui dit « Je vous juge par vos propres paroles, vous êtes un mauvais sujet. » S'adressant à mon père, « Monsieur, remenez vos dames, tandis que je vais le retenir ici. » « On fera bien de me retenir !» s'écria stupidement Moresquin, « car si je sors avec lui, je l'assassine !» Mon père vint nous prendre et nous remmena. On garda Moresquin jusqu'à 8 heures du soir, qu'on le renvoya en lui signifiant que s'il amassait seulement 3 personnes autour de lui dans le jardin, on le ferait arrêter et conduire en prison. Voilà comment se termina la scène du 25 mai. Mon père, accompagné de Félicité et du jeune avocat général, alla porter sa plainte devant le même commissaire chez lequel j'avais été conduite par Moresquin le 21 février. Le lendemain, le palais royal retentit de cette aventure. Moresquin lui-même alla s'en vanter à ma tante, ainsi qu'à son vieil ami le colporteur vieillard, espèce de mauvais sujet, avec lequel Moresquin jouait aux cartes ou aux dames. Nous demeurâmes assez tranquilles ensuite, car je veux abréger cette basse persécution, jusqu'au moment où Moresquin découvrit l'impression du livre intitulé « La femme infidèle », composé par un ami de mon père et dans lequel Moresquin voulut se reconnaître sous le nom de l'Échiné. En effet, c'était lui-même. Le colporteur vieillard lui remit le seul exemplaire qui eût été confié à sa malhonnête femme pour le vendre. Les deux sots crurent triompher et qu'ils pourraient attaquer M. Saxancourt. Mais la mauvaise volonté du colporteur espion et la rage de Moresquin demeurèrent également sans effet. Ce dernier se couvrit lui-même de honte en colportant le livre et il ne réussit qu'à démasquer la bassesse de son âme ainsi que la méchanceté gratuite du sous-protecteur. Moresquin vint pendant tout l'été sous nos fenêtres avec son fils, le livre à la main. Il amassait les passants. Il appelait son fils « Petit l'Échiné ». En un mot, il faisait toutes les petitesses d'une âme atroce lorsqu'elle n'a plus de prise sur un objet innocent et faible. Il mettra bientôt le comble à son insolence. Mais auparavant d'en venir là, je vais reprendre l'agréable tableau que j'ai quitté, je veux dire celui de la liaison de M. Saxancourt avec Félicité. Un vieillard amoureux est toujours ridicule. D'où vient que mon père ne l'était pas? Il est vrai qu'il n'avait que 52 ans, qu'il est sans rides. Mais je crois que la véritable raison, c'est qu'un homme de son mérite ne vieillit pas comme les autres. Je crois encore que le ridicule jeté sur un vieillard amoureux vient de la personne qu'il aime. Si elle est sensible et tendre, point de ridicule. Elle n'en donne que lorsqu'elle persifle. Mais dans ce cas, un jeune homme même deviendra très ridicule. Félicité, dont les sentiments avaient pour base l'estime, la vénération même, était tendre avec enthousiasme. Et dès lors, il était permis à son amant de l'adorer sans être ridicule. J'eus le spectacle de leur tendresse réciproque, et il était délicieux pour moi de voir une jeune personne attrayante, délicate, fêtée, repousser tous ses amants pour faire le bonheur du plus chéri des pères. Je l'adorais à mon tour, cette fille aimable. Un jour, que je l'ai la chercher pour dîner avec nous, ignorant que M. Saxencourt avait eu la même pensée que moi, je trouvai la porte entr'ouverte. Ne me doutant de rien, je la poussai du doigt. J'entrevis mon père assis, tenant Félicité sur ses genoux, ou plutôt penché dans ses bras. Surprise, étonnée, je m'arrêtai. « Ma belle, ma chère Félicité, disait mon père, vous faites mon bonheur et je vous dois la santé. Oui, vos délicieuses caresses, vos sentiments, que je n'eusse osé demander, désirer même, font circuler mon sang et préviennent ou détruisent les causes du mal que je redoutais. Ange céleste, je dois te chérir. » À ces mots, il donnait et recevait les plus tendres baisers. Il pressait mon amie contre son cœur. Elle lui disait les choses les plus tendres, les plus enflammées et telles que jamais je ne m'en étais imaginé de pareilles. Je la vis, doucement émue, s'abandonner dans ses bras. J'étais interdite et je ne savais ce que je devais faire. J'attendis, et ce fut tant mieux, car je n'entendis et ne vis rien que d'absolument très platonique. C'était une estime très tendre, très vive, un attachement dévoué, mais rien de plus. Félicité revint enfin à elle-même, et la décence de ses expressions, la beauté de ses sentiments, les compliments délicats que lui fit M. Saxencourt, me convainquirent que ce qui guérit les affections de la poitrine n'est pas l'amour proprement dit, mais la tendresse. Quelle différence de ce que je venais de voir aux sentiments et à la conduite de Moresquin! Mon père et lui sont-ils de la même espèce? Je ne le crois pas. Il est plusieurs races d'hommes, peut-être en est-il autant que d'espèces d'animaux. Les unes tiennent du tigre et du pourceau, comme Moresquin, pour la cruauté, la crapuleuse conduite. De l'âne, du cheval, du taureau, quelques-unes du mouton, d'autres du bouc, etc. C'est là un ingénieux livre que celui que j'ai lu, intitulé « La découverte australe ». J'ai entendu dire à quelqu'un que dans ce siècle esprité, personne ne l'avait comprise à Paris, excepté deux médecins, M. Guibert de Préval et M. Lebègue de Presles. Mais revenons à ma Félicité. Elle devait bientôt retourner à sa terre. Aussi employait-elle tous les moyens possibles pour bien consolider la santé de M. Saxencourt avant son départ. Elle lui donnait tout le temps qu'elle pouvait dérober à ses affaires. Si elle allait dîner en ville, c'était lui qui la conduisait. Et dans ses courses, leur conversation, qu'elle m'a répétée, était charmante parce qu'elle avait pour base un sentiment que les chutes physiques n'affaiblissaient jamais. Il fut décidé que j'irais avec Félicité dans la terre acquise par son frère à 10 lieues de Paris du côté de la Normandie. Cette terre était le bien de la jeune personne qui en prit le nom. Nous partîmes en effet le 29 juin. Le séjour que je fis près Montfort fut délicieux jusqu'à la mi-septembre. J'étais fêté comme mon ami par tout le voisinage. Son frère avait pour moi les attentions les plus délicates. Je fis des connaissances fort agréables parmi les jeunes personnes du canton. Mais mon cœur était tout à Félicité. Elle ne me parlait que de M. Saxencourt. Il était nouvellement gravé. Félicité avait son portrait qu'elle mit à son chevet. Elle lui parlait quelquefois et lui disait des choses touchantes. Je lui en témoignai un jour mon étonnement, vu l'âge de mon père. « Ah, si vous saviez comme il est séduisant, me dit-elle. C'est un de ces hommes qui n'ont pas besoin de jeunesse pour se faire aimer. Ses distractions même et son air occupé ont un charme, parce qu'on sait trop que ce n'est pas affectation. Il ne dit pas un mot qui ne soit l'expression d'un sentiment. S'il fait un compliment, il est délicat et persuasif. Il vous détaille vos charmes et vous perfectionne de manière à faire aimer l'homme qui sait les pénétrer si bien et en deviner tout le prix. C'est ainsi que s'exprimait l'aimable Félicité. Hélas, qui l'aurait pensé qu'avec tant de charme, de grâce, de jeunesse, elle serait quittée par un homme de 52 ans? Ce fut cependant ce qui arriva, mais elle n'eut d'autre rival que l'occupation. Je passai près de 5 mois avec ma belle amie, mais, comme je l'ai dit, les 2 premiers seuls furent d'une gaieté pure. Au milieu de septembre, je reçus une lettre de Moresquin. Elle n'était que d'une page et n'exprimait que la connaissance qu'il avait de mon séjour à Saint-Léger. Cependant, elle l'empoisonna, parce qu'à tout moment, je m'attendais à le voir arriver et renouveler la scène du jardin du roi. Je n'entendais plus frapper sans que le cœur ne me battît. Si je voyais un étranger quand nous sortions, je me cachais jusqu'à ce que je l'eusse reconnu. Cette appréhension continuelle me rendit malade. Je revins à Paris avec une fièvre lente. Pendant mon absence, Moresquin avait donné quelques scènes sous les fenêtres de mon père avec son fils. Il rassemblait les femmes du commun et leur faisait une narration à sa manière. Et comme il est le plus faux de tous les hommes, ce devait être le parfait opposé de la vérité. J'appris à mon retour tout le scandale qu'il avait causé. Mais j'étais sous la sauvegarde de mon père et de la loi. Nous demeurâmes tranquilles jusqu'au 9 février 1787. C'est ici une nouvelle époque, mais qui ne sera pas longue. Ce fut comme la dernière explosion de la rage de Moresquin et celle qui lui fut le plus funeste. Le 9 février, il se leva très matin pour commencer son opération. Il se rendit à Montrouge pour y voir M. Mercier, l'auteur du tableau de Paris, ami de M. Saxancourt. Il ne le trouva pas. M. Mercier était à Paris. Il eut la hardiesse de demander M. le tourneur. Il fut admis devant une compagnie de 5 à 6 personnes. Ce fut là que cet insensé, en présence de gens qui tous estimaient et connaissaient M. Saxancourt, eut la témérité de se répandre en calomnies qui firent horreur. Il y a grande apparence qu'il machinait cela dans sa tête depuis longtemps et que c'était un dernier coup qu'il voulait frapper sans trop s'inquiéter des suites. Il sentait que, quels que fussent les rapports qu'il avait avec M. Saxancourt, c'était une élévation pour lui et il en profitait à sa manière. Les choses qu'il dit dans le dessein de frapper un coup d'éclat n'eurent pas l'effet qu'il s'en était promis. Elles étaient si outrées qu'on le prit pour un fou. Seulement, M. le tourneur était tout tremblant, car il y avait à frémir. Qu'on se figure qu'il me chargeait de tous les crimes à la fois, ainsi que mon père. On sait ce qu'il a fait. Il a fallu le raconter d'après cette dernière calomnie pour satisfaire aux demandes répétées de tous les amis de M. Saxancourt. Et un homme capable de ce qu'il a fait l'est encore plus de tout dire. En revenant de Montrouge, où il avait effrayé tout le monde, Moresquin rencontra M. le vicomte de T, l'homme le plus doux et le plus honnête. Il se répandit en injures contre M. Saxancourt avec une telle atrocité que M. de T, indigné, sortit de son caractère pour lui dire « Je vous connais enfin, mais c'est par votre propre bouche. Allez, vous ne faites tort qu'à vous-même. » M. Saxancourt apprit cette conversation le soir même de la bouche de M. le vicomte. Mais tous deux ignoraient ce qui s'était passé à Montrouge. Ce ne fut que le surlendemain que M. Mercier en instruisit M. Saxancourt par une lettre d'abord, puis de bouche. Mon père, indigné, sentit alors qu'il ne devait plus ménager un misérable qui le forçait à le démasquer. Il fit un mémoire, le même que j'ai remis à mon procureur et qui ne contient que le récit exact des faits. Ils y sont plus abrégés qu'ici, parce qu'on y a retranché tous les traits atroces dont on ne voulait pas faire retentir les tribunaux. Mon père fit ensuite priver Moresquin de son emploi, en employant une personne qui savait se faire écouter. Le méchant fut chassé le 19 février, 10 jours après son explosion du 9, explosion qu'il avait prolongée en allant dans différentes maisons répéter ses calomnies. Moresquin, déplacé, ne se voyant plus soutenu par les sots discours d'un mégas, d'un laprope, d'un goupillon et d'autres bas personnages qui environnent M. Olaus Magnus et le trompent par un effet de leur basse jalousie contre le mérite, Moresquin est demeuré dans sa platitude naturelle. On n'a pas entendu un mot de lui depuis son expulsion, si ce n'est qu'il présenta un mémoire au sous-protecteur qui le montra un jour à mon père. Ce mémoire était également impertinent et sot, et il n'excita que le mépris. Cependant, mon père fut blessé de ce que Mégas s'en était chargé. Il cessa de le voir pour jamais. On commença la procédure de la séparation d'après les derniers écarts de Moresquin. On prouva, par 2 témoins oculaires, les soufflets au jardin du roi. On prouva par 30 témoins les infamies débitées à Montrouge devant M. le tourneur et ses amis. À Paris, devant différentes personnes dignes de foi, surtout à une dame aimable, dont la figure, les mœurs et le charmant caractère font le bonheur de son époux, et d'un fils de l'âge du mien, mais plus heureux. La séparation a enfin été prononcée, moins d'après le mémoire de mon procureur que d'après celui-ci. Je retournai voir Félicité, avec laquelle j'ai passé 3 mois et demi en 1787. Je partage ainsi ma vie entre mon père, une sœur chérie, dont les grâces, l'aimable naïveté ne peuvent être comparées qu'à celles de ma céleste amie, et Félicité. C'est dans cette heureuse tranquillité que me laissent mes peines que j'ai entrepris de composer ces mémoires qui ne m'ont rappelé des moments cruels mais passés que pour me faire mieux sentir mon bonheur actuel.